Habemus Papam.
In Springfield, they're eating the dogs.
Por primera vez me convertiré en la primera mujer presidenta de México.
Ici, le monde.
Ici Le Monde, c'est un voyage en trois escales de ce qui fait l'actualité à l'étranger. Cap ce matin sur la Finlande, où on a trouvé la parade pour payer moins cher le chauffage. On utilise désormais la chaleur des data centers. On voit ça avec notre correspondante sur place, Ottilia Ferret. Avant toute chose, Ottilia, on peut rappeler c'est quoi un data center ?
Alors, un data center, centre de données en français, c'est un bâtiment rempli de serveurs, c'est-à-dire de gros ordinateurs très puissants. On y trouve aussi des systèmes de stockage et des équipements réseau qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est par là, en fait, que passent toutes les données qui doivent être traitées pour qu'on puisse faire une recherche sur Internet, utiliser les réseaux sociaux ou utiliser notre GPS, par exemple. Et ces milliers d'ordinateurs qui travaillent et font des calculs en continu, eh bien, ils consomment énormément d'électricité et donc ils produisent beaucoup de chaleur. Donc, pour ne pas qu'ils surchauffent et qu'ils tombent en panne, ils doivent être refroidis en permanence. Paradoxalement, refroidir consomme de l'énergie et cette énergie crée encore de la chaleur, un cercle pas vraiment vertueux donc pour l'environnement.
C'est quoi le principe de se chauffer avec un tel centre ? Comment ça marche ?
Alors justement, l'idée en Finlande, c'est de récupérer cette chaleur. Cette idée, c'est Arvi Kurvi, ingénieur finlandais, qui l'a concrétisée. Lui, il vit en fait à 5 km d'un data center dans le sud de la Finlande. Un data center qui chauffe son appartement grâce à un système de tuyaux et de pompes qui collectent l'énergie thermique produite et l'achemine jusqu'aux habitations de sa ville. Mais la chaleur est aussi redistribuée vers des hôpitaux, des écoles ou des centres commerciaux. Fini donc le gaspillage. Cette méthode, elle a été mise en service il y a une dizaine d'années et l'an dernier, elle a permis de chauffer l'équivalent de 2500 foyers quand même.
Quels sont les avantages ?
Ça réduit les factures d'électricité et puis à l'heure où les besoins informatiques explosent sur la planète, avec notamment l'IA très gourmande en électricité, ça permet de limiter l'impact sur l'environnement. Il est prévu que les besoins en électricité des data centers doublent d'ici 2030. Donc il était grand temps que la chaleur produite par les géants des technologies soit récupérée et serve un modèle plus durable. Il est prévu que la récupération de chaleur représente à terme 1% des réductions d'émissions nécessaire pour que la Finlande atteigne son objectif de neutralité carbone.
Il y a peut-être des inconvénients et des limites aussi ?
Alors, il y en a toujours, n'est-ce pas, hein ? On assiste aujourd'hui à une vraie course à l'électricité et il n'en reste pas que les data centers sont très énergivores. Le problème, c'est qu'ils emploient très peu de main-d'œuvre et ils entrent en concurrence pour l'accès à l'électricité avec des usines créatrices d'emplois qui ont un impact bien plus positif sur l'économie nationale. La Finlande commence donc à réagir là-dessus pour tenter de rééquilibrer les choses en supprimant, par exemple, un avantage fiscal accordé aux centres de données afin qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Et puis, pour que la chaleur de ces data centers soit recyclée, il faut aussi qu'ils soient raccordés au réseau de chauffage urbain, donc en ville, où les terrains sont eh bien, plus chers. Or, donc, certains choisissent de s'installer loin, en forêt, là où ce système de récupération n'est pas possible, et donc 100% mauvais pour l'environnement. Ces systèmes de récupération de chaleur des data centers sont efficaces, mais ils ne font que limiter les dégâts, en fait. Ils ne sont pas bénéfiques pour le climat. Politiquement, certains arguent aussi qu'il faudrait plus de réglementation au niveau européen pour forcer ces data centers à valoriser la chaleur qu'ils produisent.
Ce n'est pas étonnant que ce soit la Finlande qui ait eu l'idée de récupérer cette chaleur.
Alors non, parce qu'en fait, l'idéal, c'est que ces data centers soient refroidis naturellement par l'air extérieur, qu'ils soient alimentés par des sources renouvelables et connectés donc à un vaste réseau de canalisations souterrains. La Finlande et les pays nordiques cochent parfaitement ces trois cases. Ça explique aussi qu'aujourd'hui, le plus gros projet de récupération de chaleur résiduelle de la planète est en cours à deux pas d'Helsinki. C'est là que Microsoft est en train de construire un ensemble de centres de données qui, une fois achevé, doit fournir du chauffage à 40% d'Espoo, c'est la deuxième ville de Finlande, soit quelques 100 000 foyers. La centrale à charbon de la région a même été fermée car elle est devenue inutile. Donc ça, sur ce point-là, oui, c'est très positif.
Je précise encore que l'Union européenne encourage fortement la valorisation de cette chaleur pour les centres de données de plus de 1 mégawatt. Deuxième escale, les États-Unis. L'administration Trump va installer une gigantesque prison fédérale anti-immigration dans un entrepôt à la sortie d'une petite ville de 5000 habitants dans le sud du pays. Une décision qui provoque un tollé chez les habitants, dont beaucoup pourtant sont républicains. Reportage.
À Social Circle, le temps s'étire lentement. Une seule route, un seul café, deux shérifs adjoints dans le comté. Nous sommes dans une de ces small towns, petites villes du sud des États-Unis.
Ils ne devraient pas installer ça ici. On n'a pas besoin ici.
Le dos courbé à réparer son pick-up, Curtis affiche un mélange de tristesse et de sidération lorsqu'il évoque l'ouverture de ce centre de détention de l'ICE à la sortie de la ville.
Ils n'ont pas assez de compassion pour ce qu'ils font.
Ici, la très grande majorité des habitants a voté à 73% Donald Trump aux dernières élections. Mabel, 85 ans, est une des notables de la ville.
J'ai voté Trump avec mon mari, mais là, c'est tellement n'importe quoi. Je veux qu'on me rende mon bulletin de vote. C'est vraiment un dingue.
Nous partons donc à la rencontre de cet entrepôt ultramoderne qui jusqu'ici faisait la fierté des habitants.
Voilà, c'est ici. L'entrepôt est juste en face.
C'est gigantesque, c'est assez impressionnant. Ça fait 500 mètres de long, quasiment pas de fenêtre.
La transformation de cet entrepôt pour y loger 10 000 personnes en détention soulève énormément de questions.
Il y aura 10 000 lits dans cet entrepôt.
À la mairie de Social Circle, Eric Taylor est assailli de coups de fil.
Il n'a jamais été conçu pour des êtres humains, mais plutôt pour Amazon ou Walmart, pour trier des colis, pas des personnes. Et les douches, les toilettes, comment vont-ils gérer l'eau et les égouts dans cet entrepôt? Notre population va tripler du jour au lendemain. Je n'ai pas signé pour ça, pour être la solution de l'administration Trump sur l'immigration.
Un mélange de honte et de colère s'est emparé de Bob Stanley. 87 ans, il a lui aussi voté Trump. À chaque élection, il nous accueille chez lui.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est notre pays, pas notre petite ville. Quand vous regardez ce qu'on fait aux gens, mettre en prison un homme, sa femme et ses enfants alors qu'ils n'ont rien fait de grave, ce n'est pas ce que fait notre pays normalement. La plupart des gens ici sont républicains. On a fait élire l'un des pires présidents qu'on ait vu. J'ai voté pour lui trois fois. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je veux qu'il parte. Je n'aurais jamais imaginé ça.
Ce sera juste une immense cage pour des milliers de personnes et la plus grande prison du pays.
À 70 ans, Garrett Finley est enseignante à la retraite. Robe à fleurs et larges lunettes, cette démocrate revendiquée passe désormais l'essentiel de son temps libre à organiser des mobilisations.
Je suis sur un groupe Signal qui se mobilise contre ces entrepôts dans tous les États-Unis. Ce qui va se passer, c'est que l'armée américaine, via un programme appelé Titus, viendra transformer ce hangar en centre de détention. Ça ne peut pas être humain. On constate déjà beaucoup de violations des droits à l'intérieur des centres de détention de l'immigration.
Des lits superposés dans des espaces partagés sont documentés par l'administration. Social Circle ne sera bientôt plus cette ville tranquille où l'on s'arrête pour prendre un café. C'est ce que regrette Allison, 48 ans.
Ici, la vie est simple, calme. Si je m'assois devant ma boutique, dans mon rocking chair, les gens s'arrêtent pour discuter. On vit juste entre nous et je pense que tout ça, on va nous l'enlever. À chaque élection, Trump me semblait être le moins mauvais choix. Mais là, est-ce qu'il faut des changements aussi radicaux et les faire dans notre petite ville? Je pense qu'il aurait pu choisir un autre endroit.
L'administration Trump prévoit la transformation de 24 entrepôts industriels pour y créer 92 000 places de détention.
Un reportage de Laurent Kramer pour France Inter. Dernière étape de notre voyage, la Russie, où désormais, même les ingénieurs, les chirurgiens vont à la soupe populaire. Tout devient trop cher, les prix ont bondi de 45% depuis 2022, depuis l'invasion de l'Ukraine. L'économie du pays est-elle en grande difficulté? Cela mérite un développement. Avec Aude Merlin, professeure à l'ULB, spécialiste de la Russie. Madame Merlin, est-ce qu'on peut dire que l'économie russe commence à montrer des signes d'essoufflement 4 ans après le début de la guerre avec l'Ukraine?
En réalité, donc ce que l'on a pu dire, notamment après l'invasion massive de l'Ukraine, on avait coutume de décrire cette économie russe comme touchée par certains aspects, mais pas coulé. 2025 donne un tableau différent, c'est-à-dire que les effets conjugués à la fois d'un certain nombre de sanctions et notamment par rapport à la vente des hydrocarbures russes et donc la dimension de comptoir d'hydrocarbures qu'est la Russie a été modifiée. Il y a aussi la question du prix des hydrocarbures et notamment du baril de pétrole qui est inférieur aux projections que font les autorités russes lorsqu'elles forgent le budget. Et puis, sur la question des sanctions, il y a aussi, bien sûr, toute une question de composantes pour l'industrie qui font défaut. Alors, la Russie s'est adaptée, mais il y a un affaissement et le ministre de l'économie a même dit que la Russie était au bord de la récession. Mais c'est sûr qu'il y a une dégradation de l'économie russe qui a été marquée en 2025.
Y a-t-il pour autant un risque d'effondrement économique ? Parce que c'est vrai, les dépenses militaires ont été colossales et elles le sont toujours.
Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a 40% des dépenses publiques qui vont à la guerre, en fait, de façon très large. Cela représente 8% du PIB, alors qu'avant le 24 février 2022, on était à un peu moins de 5%. Donc, c'est sûr qu'il y a une augmentation de cette allocation de moyens, mais cela ne signifie pas nécessairement que cela conduit à un effondrement. Cela signifie que l'économie se restructure différemment. Ça pourrait vouloir dire que précisément, une guerre avec l'engagement de très gros moyens peut aussi produire de l'emploi, etc. Donc, parler d'effondrement, non, je ne pense pas. Mais en tout cas, on est face à un essoufflement, à une économie qui flanche et effectivement où des coupes budgétaires doivent être opérées parce que cet énorme engagement budgétaire au profit de la guerre, au profit de l'armée, fait que là, on a certains postes budgétaires dégarnis, et notamment la question des dépenses sociales. Et puis, il y a une inflation très importante, il y a une augmentation de la TVA. Les prix augmentent, et donc le panier des ménages, des produits alimentaires, augmente de façon très importante.
Conséquence, la population trinque. Les Russes ont recours à la soupe populaire.
Oui, alors là, pour la soupe populaire, cela concerne les pensionnés, ceux qui ont des pensions qui tournent entre 250 et 450 euros par mois, plus ou moins. Après, évidemment, vous avez toute une population, notamment dans les grandes villes, qui n'est pas encore touchée. Mais une partie de la classe moyenne commence à sentir le poids de cette augmentation. Et donc, on voit par exemple certains témoignages de citoyens russes, de résidents, qui en fait, quand ils font leurs courses, regardent le nombre de calories sur un produit en fait. Et pour justement essayer d'avoir leur paquet calorique nécessaire au regard de l'augmentation des prix. Donc, c'est sûr que là, il y a un effet. Alors, évidemment, sur les classes les plus fragiles, mais aussi, voilà, certains segments de la classe moyenne commencent à le ressentir, mais dans une situation, en revanche, où on a très, très peu de chômage, puisqu'on a une économie russe qui est en demande de main-d'œuvre. Donc, voilà.
Mais comment expliquer cette situation ? Les hydrocarbures ne rapportent plus ? C'est l'effet des sanctions américaines ?
Alors, les sanctions, c'est essentiellement par le fait que les débouchés des hydrocarbures donc sont réorientés et que la Russie vend à prix cassé ces hydrocarbures à l'Inde, à la Chine, etc., en réorientant les flux. Et il y a l'autre élément dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que la diminution, la réorientation concernant certaines composantes, certains matériaux qui sont sous sanctions ont porté atteinte à la qualité de certaines productions économiques locales en Russie. Ce sont sur ces deux éléments qu'on mesure l'impact des sanctions, sachant que le contournement des sanctions est aussi une habileté qui est avérée. L'économie russe avait déjà été frappée de sanctions dès 2014, après l'annexion de la Crimée. Donc, il y a aussi un savoir-faire en termes de détournement de sanctions, en termes d'adaptation de l'économie russe nationale domestique et de réappropriation de certains savoir-faire. Donc, en fait, l'effet des sanctions est peut-être moins fort et moins frappant en tant que tel et pris isolément que l'effet de la chute du prix du baril sur le marché mondial et que le fait que la Russie doit vendre à prix cassé ses hydrocarbures à d'autres acheteurs.
Je précise encore que les ventes de gaz et de pétrole rapportaient 40% du budget fédéral en 2022, 30% en 2024 et sans doute 22% cette année. Merci de nous suivre. Merci d'être ouvert à l'actualité internationale.